Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Quand même vous fasse. Nous sommes nombreux à honorer le sacro-saint poulet rôti du dimanche, le plat préféré des Français paraît-il selon une enquête BVA de 2015. En dépit de la baisse généralisée de la consommation de viande, les Français restent attachés à cette volaille apparue en Occident au 5e siècle avant notre ère. Mais comment expliquer cette communion, cette passion nationale pour le poulet ? Comment bien le choisir ? Faut-il forcément acheter une volaille labellisée ? Quelles sont les qualités nutritionnelles du poulet ? Et puis nous verrons dans quelles conditions les poulets industriels et de qualité sont élevés. Des conditions parfois terribles, nous dira un représentant de l'association L214. Avec nous autour de cette table gourmande, les journalistes François-Régis Gaudry, Nathalie Elal et Laurent Guèze et le consultant en restauration Bernard Boutboul. Mon complice aujourd'hui, le professeur de philosophie Thibaut de Saint-Maurice. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi.
Et le poulet, alors là c'est un beau poulet de chez moi, un beau poulet landais d'un kilo 8. Je vais commencer par couper les pattes. Le cou. D'abord ça que je jette, ça se fait depuis Louis XVI. Ensuite cette partie-là et également le bout des ailerons. Et alors là, je vous demande, s'il vous plaît, de bien regarder ce que je vais faire. Car vous ne le savez sûrement pas, mais sur un poulet, il y a ici, en bas du croupion, un petit endroit où il y a deux glandes. Et ces deux glandes sont très mauvaises, très amères au goût. Alors il faut les enlever, ces glandes. Comment fait-on ? Ben, tout simplement, avec un couteau, on enlève. Et regardez, ces deux taches jaunes, ce sont les deux glandes qu'il faut toujours enlever, que le poulet soit rôti ou sans fricasser, ou bien comme une poule au pot, il faut toujours enlever cette petite chose.
Le truculent chef Michel Oliver qui nous explique donc la découpe du poulet dans l'émission « Dis-moi ce que tu mijotes » en 1977. Bonjour à tous nos invités, Nathalie Elal, journaliste et écrivaine spécialisée dans la cuisine. Le poulet apparaît donc en Occident au 5e siècle avant notre ère. On pense qu'ils sont issus du mécapode roux de Malaisie avant de passer en Asie mineure et se retrouver sous nos latitudes. Dans nos assiettes, la poule a précédé le poulet.
Oui, parce que tout simplement on préférait qu'elle donne des œufs avant de la consommer. Mais je vous rassure, on a tout de suite eu l'idée d'améliorer sa chair en l'engraissant de la meilleure façon possible. Et d'ailleurs, il paraît que les riches romains de l'Antiquité, eh bien, raffolaient des poulardes. Ils les nourrissaient évidemment avec des grains de blé. Si bien qu'en 161 avant notre ère, le consul Strabon a dû faire interdire de servir dans les banquets plus d'une poularde élevée au grain. Parce que ça consommait tout le grain de blé disponible. Et bien sûr, les gastronomes ont eu l'idée géniale de se tourner vers le chapon. Ils ont inventé le chapon.
François-Régis Gaudry, animateur de l'émission, on va déguster le dimanche à 11h. Au cours de l'histoire de la gastronomie, on se rend compte que la chair du poulet se prête à toutes les transformations, à mille et une recettes.
Oui, c'est incontestablement l'une des viandes les plus populaires dans notre répertoire gastronomique depuis la nuit des temps. Le poulet rôti, je crois pas qu'il ait franchement d'âge en fait. Il existe du poulet rôti depuis qu'il existe le feu tout simplement. C'est un plat de partage, une institution en France. On n'est d'ailleurs pas les seuls. Aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, le roast chicken est aussi très populaire. Je crois que c'est surtout un plat assez simple qu'on met au milieu de la table et qui génère une espèce de sociabilité joyeuse. Il y a vraiment l'idée de se référer à la jolie banalité de notre quotidien, tout simplement.
Nous avons un rapport identitaire avec le poulet. La Gaule, dérive de Gallus, qui veut dire coq, l'emblème national, Nathalie Elal.
Oui, Galina, effectivement. Je voulais vous dire une chose importante.
Mais sur ce rapport identitaire avec le poulet.
Parce que le poulet, c'est le mets dominical, en effet, par excellence. C'est vrai que c'est une tradition depuis très très longtemps. On connaît tous l'histoire de la poule au pot du bon roi Henri IV, qui a voulu que chaque laboureur de son royaume et une poule à mettre dans son pot. En effet, mais le laboureur à l'époque, c'était plutôt un paysan de la paysannerie riche, de l'élite paysanne. C'était pas tout un chacun. Et puis avant ça, il y avait une signification importante. C'est que le poulet servait de reconstituant aux malades et aux convalescents avec un plat qui a été inventé inventé chez nous, qu'on a appelé le blanc-manger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît le blanc-manger comme un mélange de lait d'amande, de poudre d'amande, pris en gelée. C'est un entremets, c'est quelque chose de sucré. Mais en réalité, au XIIIe siècle en France, c'était pas du tout cela. Le blanc-manger, c'était quelque chose, c'était une sorte de bouillie de viande de poule ou de chapon, donc réduite en poudre, avec de la farine de riz, avec des pistaches pilées, le tout fortement aromatisé à l'eau de rose et bien sûr avec du lait dedans. Et c'était très reconstituant. Et ça, ça servait aux malades.
Bernard Boutboul, vous êtes directeur général du cabinet Gérard Conseil, expert en consommation hors domicile. Comment vous expliquez-vous cette passion nationale pour le poulet ?
Alors effectivement, c'est l'un des rares produits d'ailleurs dans la restauration qui fait l'unanimité. C'est très rare d'entendre un consommateur qui dit « je n'aime pas le poulet ». Ça arrive quasiment
jamais.
Sauf
s'il est végane.
Oui, effectivement. Mais
végétarien.
Avant d'être végane, il l'aimait très probablement. Non, ce qui est intéressant, c'est que s'il fait l'unanimité, il est resté cantonné au domicile pendant des décennies avec ce fameux poulet du dimanche rôti qu'on achetait chez le charcutier et le boucher. Et il est rentré par une mauvaise porte dans la restauration qui est ce que j'appelle le poulet frit. Avec évidemment les chaînes de fast-food. Il y a des Américains qui sont en train de rentrer également avec du poulet frit. Et on a attendu, il y a 4-5 ans pour avoir, ça y est, on commence à avoir des concepts de restauration rapide premium qui travaillent du poulet rôti, mariné, rôti en direct live dans la boutique avec des poulets labellisés et des poulets de très très haute qualité.
Et le poulet, c'est le plat que l'on retrouve dans l'écrasante majorité des restaurants avec le steak ou l'entrecôte. C'est un basique dans la plupart des restaurants.
Non, c'est pas un basique. Le bœuf est omniprésent et les viandes blanches sont peu présentes. C'est très étonnant d'ailleurs parce qu'on parle beaucoup de la déconsommation de bœuf et les viandes blanches ne sont pas dominantes en tout cas sur les cartes de restaurant.
François-Régis Gaudry, vous confirmez ?
Oui, je confirme. Pour visiter 7 ou 8 tables par semaine, c'est vrai qu'il y a une espèce de méfiance naturelle des chefs à l'égard du poulet, sans doute parce que c'est une viande assez bon marché sur laquelle ils n'ont pas tellement le loisir de s'exprimer, d'exprimer leur créativité. Un poulet rôti, même si je constate qu'il y a un vrai retour du poulet rôti dans des restaurants et notamment des bistrots à Paris, le chef préfère en effet des viandes un peu plus nobles, tout simplement pour affirmer son statut de chef un peu. Mais c'est une déformation et c'est fort dommage.
Laurent Guest, directeur de la rédaction du Parisien Week-end.
Non, il y a quand même quelques restaurants qui on en fait même un produit phare, genre le Coq Rico à Paris, Montmartre, d'Antoine Westermans, l'ancien chef du Drouan, célèbre, et lui qui fait des volailles extraordinaires de chaland. Et franchement, il faut aller vivre cette expérience parce que là, le poulet devient un produit gastronomique. D'ailleurs, ça l'est quand c'est bien fait. Le poulet, c'est un produit extraordinaire. Il faut bien le choisir. Je ne sais pas si on y reviendra.
Bien sûr, évidemment, Laurent Guest.
Mais voilà.
Nathalie Hélal.
Oui, pourtant, bizarrement, le poulet est omniprésent dans la gastronomie française. Il y a une multitude de recettes, j'en ai relevé quelques-unes, en ballotine, bonne femme, en quenelle, en carie, en capilotade, en cocotte, à l'estragon, en mousseline, en cromeski, pané, en crapaudine, au vinaigre, chasseur, au mori, au vin jaune, mon préféré pour l'instant.
Alors pourquoi le poulet ne subit pas le même désamour que la viande rouge dont la consommation baisse constamment ces dernières années ? Comment vous l'expliquez-vous, Bernard Boutboul ?
Parce que c'est une viande blanche d'abord, et la viande blanche a plus la cote en France que la viande rouge. Alors attention, en hors domicile, quand on dit que la consommation de bœuf descend, elle descend à la maison, mais elle monte en hors domicile. Elle monte en hors domicile parce qu'on a l'apparition de steakhouse qui la bonifie, mais le poulet, c'est un produit qui fait l'unanimité, et pourtant, certains diététiciens nous disent que le poulet avec sa peau un peu épaisse, croustillante, n'est pas si light que ça.
Nathalie Hélal.
Oui, je me demande si c'est pas une survivance de la médecine des contraires d'autrefois de préférer les viandes blanches. On pensait à l'époque qu'il fallait combattre la mélancolie, la dépression, donc les humeurs, ce qu'on appelait la bile noire, avec des aliments blancs dont le lait, dont le poulet, dont le chevreau. Donc il y a une sorte, à mon avis, de tradition qui est restée peut-être dans l'inconscient collectif que cette viande blanche, eh bien, est plus inoffensive et meilleure peut-être pour la santé.
François-Régis Gaudry, comment vous expliquez ce désamour pour la viande rouge et cet amour constant pour le poulet et les volailles en général ?
Alors, il y a un côté incontestablement universel de cette viande du poulet. Je connais pas un enfant qui n'aime pas le poulet rôti. C'est vraiment une viande tout à fait consensuelle. Et en même temps, je m'inscris légèrement en faux dans le sens où j'ai quand même le sentiment que monte une espèce de méfiance du consommateur, du gourmet, du mangeur à l'égard du poulet, justement.
Pourquoi ?
Eu égard aux conditions d'élevage de certains poulets de batterie et dans des systèmes de tout à fait confinés, de claustration, hein, c'est quand même le jargon industriel qui parle ainsi. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont un peu, qu'on va qualifier de flexitariens, qui freinent leur consommation de protéines animales et qui, en général, éliminent assez rapidement le poulet et qui, éventuellement, peuvent s'autoriser à continuer à manger un peu de viande de bœuf pourvu que l'élevage ait été fait dans de bonnes conditions. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a une rébellion à l'égard de cette viande.
Il me semble qu'il y a aussi une histoire de prise de conscience par phase et que les associations qui, on va en avoir une je crois tout à l'heure en ligne, qui militent contre la souffrance animale prennent un sujet derrière l'autre et que petit à petit les consciences, à un moment donné c'est l'abattage des bovins qui est le grand sujet, on va arriver sans doute à une autre prise de conscience sur l'élevage des volailles et ça sera peut-être une nouvelle étape de diminution peut-être de cette viande-là.
Bernard Boutboul. La restauration a pris en compte tout ce qu'on vient de dire, qui est évidemment très juste à deux niveaux. C'est qu'aujourd'hui, même dans un hypermarché, il est impossible quasiment de pas trouver un poulet labellisé, voire un poulet fermé. Bref, tout est fermé, tout est labellisé. Et puis, la deuxième chose, c'est que les restaurateurs, depuis quelques années, se sont mis à être transparents vis-à-vis du consommateur. C'est-à-dire qu'ils expliquent tout en amont d'où vient le produit. Et les méthodes d'abattage, évidemment, sont expliquées.
Le poulet a déjà connu un déclin en fait en France déjà entre les années 50 et 70 à cause de l'élevage, déjà on en parlait, à cause des farines de poisson et des antibiotiques qui rentraient déjà dans son alimentation.
Et en fait, hormones,
il a été aussi. Absolument, il a été sauvé par ce fameux label rouge qui lui a été octroyé en 1965. Donc en fait c'est très cyclique cette histoire de consommation.
Thibaut de Saint-Maurice.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une réalité économique parce que le poulet c'est une viande qui est moins chère que les viandes rouges ?
Aussi.
Évidemment, et c'est certainement même l'une des premières raisons pour laquelle on reste attaché au poulet. Ouais.
Et peut-être aussi plus facile à cuisiner, parce que c'est difficile de louper complètement un poulet, qu'il soit entier ou quand on achète des filets pour les accommoder rapidement à la maison. C'est quand même une viande qui est plus difficilement ratable qu'un tourne-dos, peut-être.
Non ? Bonjour docteur Catherine Lacrenière.
Bonjour Ali.
Médecin nutritionniste. Alors le poulet est-il bon pour la santé ? Tiens.
Alors c'est une excellente source de protéines de bonne qualité biologique. Et vous savez qu'il faut qu'on prenne nos acides aminés à l'extérieur dans l'alimentation puisqu'on ne sait pas fabriquer nos protéines. Donc ça c'est une excellente chose. Il apporte également des vitamines, en particulier des vitamines B. La vitamine B3 qui est nécessaire pour le renouvellement de la peau. La B6 pour le renouvellement des tissus. Et il a des minéraux, du phosphore, c'est une excellente source de phosphore. Présent dans l'os et dans les dents, chez nous, de zinc, de sélénium et un petit peu de fer.
Les Français ont-ils raison de bouder, en tout cas chez eux, la viande rouge et de privilégier les viandes blanches, comme le poulet, de votre point de vue de médecin nutritionniste ?
Je pense qu'il ne faut rien bouder du tout. Je pense qu'il faut manger un petit peu de tout. Chaque viande a son intérêt. Il y aura plus de fer dans la viande rouge que dans le poulet, mais il est certain que le poulet est un produit peu gras, surtout si vous enlevez la peau. On a un apport en graisse bas, ce qui donne aussi un apport calorique bas, et donc c'est apprécié des gens qui font attention à leur kilo.
Alors vous êtes spécialisé dans l'alimentation anti-inflammatoire, est-ce que le poulet est une source d'inflammation dans l'organisme, dans le corps humain ?
Non, il est neutre. Il ne déclenche ni ne lutte contre l'inflammation, alors qu'une viande rouge grasse est considérée plutôt comme pro-inflammatoire du fait de son contenu en acides gras saturés.
Nathalie Elal.
Il semble, d'après certaines études, dont une de Hélène Gottschall, qui est biologiste moléculaire et cellulaire, qu'en fait, ce qui est intéressant dans le poulet, c'est la réalisation d'un bouillon avec des os, donc avec la carcasse, parce que en refroidissant, cette carcasse produit une gélatine, donc qui provient des cartilages, des ligaments et des os, et qui renferme de précieux nutriments qui, eux, seraient vraiment anti-inflammatoires.
En tout cas, merci docteur Catherine Lacrenière. Cet aspect nutritionnel, ça vous intéresse, vous, le gourmet, gourmand François-Régis Gaudry ?
Évidemment.
Oui ?
Mais non, bien sûr. D'ailleurs, je crois qu'il y a un des facteurs qui fait qu'on s'éloigne de plus en plus de la viande rouge, c'est la façon dont on incrimine cette viande et dont on la suspecte d'être inflammatoire justement à l'égard du côlon, etc. Donc, pour le coup, je trouve que le poulet a une espèce de vertu de viande saine et peu grasse.
Laurent Guez.
Il y a quelque chose qui me frappe dans notre sympathie, on va dire plutôt, du poulet, c'est que c'est un des rares produits dont on voit la forme de l'animal sur la table. On n'a pas le bœuf, on a rarement le lapin entier sur la table, etc. On a le poulet. On lui enlève la tête, mais on a tout son corps. Et bizarrement, et là je n'ai pas d'explication pour être honnête, bizarrement on n'est pas dégoûté
je connais beaucoup de végétariens qui sont justement dégoûtés le fait qu'on voit l'animal, la forme de l'animal.
Mais vous admettrez, Ali, que la plupart des gens ne sont pas choqués à voir le corps entier avec ses pattes, ses ailes, etc.
François,
c'est une énigme pour moi, à vrai dire.
Moi, je.
Posé la question.
Non, mais c'est vrai qu'on a, on a une amie végétarienne en commun, Ali, éditrice, qui hier sorifiait Laurence de Villers.
Exactement, j'allais la citer.
À l'égard d'une émission sur le poulet rôti, qui disait pour moi c'est le pire. Elle est végétarienne depuis des années et le poulet, elle veut pas en entendre parler, précisément parce qu'il y a la forme de l'animal qui se suggère dans le plat, mais en plus de cela, lui revient en mémoire effectivement ces conditions d'élevage. Assez peu scrupuleuse.
Personnellement, je trouve ça assez sympathique qu'un animal puisse être sur une table sans que tout le monde hurle.
Tout à l'heure, nous évoquerons à nouveau le sacro-saint poulet rôti et la bonne façon de réussir sa cuisson. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Laura Laplot, à la réalisation, Stéphanie Texier.
C'est une migraine, tous ces campeurs sous mes persiennes. Mais comprenez-moi, c'est dur à voir quels sont ces gens sur mon plongeoir. Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Ils disent, on peut pas aimer tout Paris, n'est-ce pas? Y a des endroits la nuit où les peaux qui vous font la peau sont plus bronzées que nos petits poules beaux. Mais comprenez-moi, la djellaba là-bas, c'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, y a des taxis qui ont peur du noir. Les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Que font ces jeunes assis par terre, habillés comme des traînes misères? On dirait qu'ils n'aiment pas le travail, ça nous prépare une belle pagaille. Mais comprenez-moi, c'est inquiétant, nous vivons des temps décadents. Mais comprenez-moi, le respect se perd dans les usines de mon grand-père. C'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, il y a des taxis qui ont peur du noir. Comprenez-moi, c'est une migraine, tous ces campeurs sous mes persiennes. Ne croyez pas que je sois borné, le genre rétrograde avancé. Je compte parmi les gens que j'aime bien un jeune avocat africain. N'est-ce pas, cher ami?
Alain Souchon interprétait Poulailler Song, c'est de circonstance évidemment.
Alors bonjour, et aujourd'hui qu'est-ce qu'on a amené? On a amené un poulet.
Oui.
Grand bien vous fasse.
Bon ben c'est un poulet de ferme. Hein. Ah, c'est ouais. Pas comme les poulets plastiques qu'on trouve dans les grandes surfaces. Hein.
Oh non, ça.
Hein, c'est de la bonne bidoche. Hein.
Sur France Inter.
Pourquoi les Français sont-ils toujours aussi accros au poulet? C'est notre menu du jour.
Attends, je vais te servir. Du poulet qu'on élève nous-mêmes, sans hormones. C'est qu'elle est étouffée dans l'eau de source avec des herbes sauvages.
Ça balaie l'intestin.
Puis les légumes sont vivants.
Oh, pardon, tu en veux? T'as oublié qu'elle était végétarienne.
Laurent Guèze, directeur du Parisien Week-end. Le poulet, on le disait tout à l'heure, c'est un plat convivial qui intéresse les anthropologues.
Oui, même le premier d'entre eux, Lévi-Strauss, qui faisait une distinction entre l'endo et l'exo-cuisine. L'endo-cuisine, c'est celle qui serait préparée dans des plats, dans des ustensiles clos, et l'exo, qui serait préparée dans des plats de service, enfin ouverts. Et le poulet rôti, quand on l'apporte sur la table, c'est effectivement ce qu'il appelle cette exo-cuisine. Et donc on voit l'ensemble du produit comme ça sur la table, et on le partage. Et cette histoire de convivialité, je pense qu'elle est très liée au partage, avec, dans toutes les familles, toujours chacun qui exprime sa préférence. Moi, je veux l'aile, moi, je veux la cuisse.
Et vous?
Moi, personnellement, sûrement pas le blanc, qui est souvent plébiscité, qui est la partie la moins intéressante, pardon Nathalie, pour moi, qui pour moi est la moins intéressante. Moi, je pense qu'il y a plus de goût quand on est proche de l'os. Voilà, donc plus on est proche de l'os, plus la viande est moelleuse, me semble-t-il, et le filet de poulet, il peut être arrangé par un grand chef ou par un bon cuisinier, mais il est moins bon.
Comment? Elle ou cuisse?
Ah bah donc l'aile, évidemment, est plus proche de l'os. Mais l'autre jour, je savais que j'allais venir parler de poulet avec vous, Ali. J'ai mangé le cou, quelque chose que je n'avais pas mangé depuis peut-être ma petite enfance. Et c'est délicieux de rogner comme ça, de ronger le cou. Je sens que je vais me faire haïr par certains auditeurs, mais tant pis.
François-Régis Gaudry, aile, cuisse, blanc
Aile ou cuisse, indifféremment, tout ce qui est à peu près proche de l'os. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Le blanc, j'ai tendance à le trouver un petit peu sec, même si une très belle cuisson peut compenser justement la sécheresse présupposée du blanc. Mais c'est vrai qu'il y a plus de juteosité, plus de tendreté, plus de goût et de saveur quand on est proche de l'os. Ça me paraît assez incontestable. Mais en général, on est dans le bon camp parce que on est minoritaire. Hein. Oui. Donc on se dispute pas ces morceaux-là.
Bernard Boutboul.
Bah moi j'avoue que j'étais très blanc et je suis passé justement à l'aile il y a pas longtemps pour effectivement la raison que on est proche de l'os, et puis c'est surtout qu'on peut le manger à la main, et ça c'est assez sympathique, je trouve.
Nathalie Hélal.
J'ai une passion pour le solilès. Un souvenir d'enfance parce que je me souviens encore du poulet rôti dominical, justement. J'étais élevée dans le nord de la France, on avait des poulets de ferme extraordinaires, et ma grand-mère me disait toujours: ma poulette, en mangeant du poulet, ne laisse pas le solilès, c'est important. Donc il y avait deux solilès, c'était réservé.
Laurent Guèze. Il n'y a que les sauts qui le laissent.
Exactement, c'est Laurent Guèze. Non,
souvent, il n'arrive pas à table parce qu'il a été carotté directement en cuisine.
C'est vrai. Quelle est votre histoire intime avec le poulet? Tiens, des souvenirs de partage, d'enfance, Laurent Guèze.
Moi, j'ai un souvenir d'un plat de ma famille qui s'appelle la poule farcie. Il y avait toute une farce avec des œufs, l'intérieur du poulet, et sans doute des légumes et tout. Je me souviens de ma grand-mère en train de coudre cette poule là. Puis ensuite, elle était cuite dans un bouillon, et c'était un plat délicieux qui se tranchait ensuite comme des tranches de galantine, un petit peu, je sais pas. C'était
beau souvenir. François-Régis Gaudry.
Moi, j'ai une affection toute particulière pour une recette très classique du patrimoine français, c'est le poulet à l'estragon, que j'ai mangé quand j'étais petit. Cette herbe-là apporte des notes tanniques, anisées au jus, ça lui apporte une densité, des notes herbacées qui sont formidables. Moi, j'ai une passion pour l'estragon. C'est pour moi l'herbe aromatique la plus intéressante. Mais le poulet à l'estragon, il y a un goût tout à fait miraculeux.
Souvenir de partage d'enfance, Bernard Boutboul?
Ah, moi, c'est le poulet du dimanche, ouais. Et rôti du dimanche, accompagné de ces petites pommes de terre sautées, c'était vraiment quelque chose de mémorable, ouais.
Alors, selon un sondage BVA de 2015, le poulet rôti serait le plat préféré des Français. C'est le vôtre, Nathalie Hélal, j'imagine?
Non, c'est pas mon plat préféré. J'ai tellement de plats préférés, je ne sais pas quoi dire. Il y a vraiment beaucoup de choses. Mais c'est vrai, je rejoins tout à fait François-Régis Gaudry sur le poulet à l'estragon. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir extraordinaire de ce restaurant qui s'appelle l'Auberge du Père Bise, près de Talloire, enfin sur le lac d'Annecy, où Marguerite Bise avait créé dans les années 40-50 le fameux poulet à l'estragon et qui était encore à la carte. Je ne sais pas s'il l'est maintenant puisque le restaurant a été repris par Jean Sulpice, mais c'était vraiment un plat mythique.
Alors, comment reconnaître un poulet rôti réussi, François-Régis Gaudry?
On le voit assez rapidement. Quand le plat arrive à table ou quand je suis dans un restaurant et que la bête entière m'est présentée, il faut qu'elle ait évidemment, il faut que cette poulette ou ce poulet ait un bronzage tout à fait régulier, une belle dorure. On sent déjà à ce moment-là la croustillance. Et puis, je crois qu'un autre indice quand on ne voit pas encore les chairs, c'est la qualité du jus. Si le jus est un peu dense, si on sent flotter ces espèces de sucs un peu plus foncés qui vont apporter beaucoup de sapidité à la dégustation, avec éventuellement quelques gousses d'ail bien confites aussi, on se dit en général que c'est bien parti.
Nathalie Hélal, au goût, comment vous déterminez aussi que le poulet réussit?
Il y a surtout aussi effectivement l'aspect, parce que le poulet doit avoir des os solides, sa chair doit tenir aux os, hein, c'est pas, la chair ne doit pas se détacher mollement en fait. Et puis la viande reste toujours très ferme, et ça c'est souvent des poulets qui pèsent plus d'un kilo, parce que les poulets de moins d'un kilo, bah, c'est quelque chose qui tombe pour le coup en capilotade dans l'assiette.
Laurent Gaze.
Moi, je pense que l'une des clés, c'est l'arrosage du poulet, en fait. Hein. Donc, quand il a été arrosé pendant toute la cuisson, en général, on a une chance qu'il soit moelleux. Sinon, on est foutu. Et puis, l'autre critère, à mon sens, en tout cas, c'est le poids du poulet. C'est-à-dire que je n'ai jamais mangé un bon poulet d'un kilo. Or, c'est, je crois, la majeure partie des ventes, en tout cas, en grande surface, je parle sous le contrôle de Bernard Woodbull.
C'est des petits
poulets qui sont portionnés pour être les plus fédérateurs, le plus de familles monoparentales ou je sais pas quoi, enfin, des petites familles qui puissent acheter des petits poulets. Or, le petit poulet n'est jamais bon. Il n'a pas assez grandi.
Tu as 40 jours.
Moi, jamais j'achète un poulet en dessous d'un kilo et demi. Jamais.
Alors, François-Régis Gaudry, quels sont les critères pour réussir le poulet rôti? Il y a deux écoles, hein, notamment pour la cuisson.
C'est vrai qu'il y a une querelle qui traverse l'histoire de notre gastronomie depuis des siècles, c'est cette histoire de feu fort ou feu faible. Moi j'ai toujours entendu dire, et ma mère le pratiquait d'ailleurs comme ça, qu'il fallait enfourner son poulet dans un plat allant au four, avec une température qui montait allègrement au-dessus des 200 degrés quoi. Et c'est vrai que du coup on se retrouvait avec une cuisson d'une heure, 1h15, 1h30 selon le poids de la bête, mais on était vraiment dans une école du feu assez agressif, parce que c'était la condition pour obtenir une peau croustillante. Or, en faisant quelques recherches et en découvrant qu'il y avait des alternatives, on se rend compte qu'un poulet, et c'est d'ailleurs maintenant comme ça que je le pratique, que vous enfournez à 140, c'est l'école d'un certain Arthur Lequen, qui est à la fois chimiste et gastronome.
Je commence, à titre personnel, sans pré-cuisson même.
Absolument. On peut commencer, parce qu'il y en a effectivement qui commenceraient un petit quart d'heure à 180, 200 et qui ensuite baissent le four. Si vous enfournez un poulet à 140, ça prend un peu plus de temps puisqu'il faut à peu près 3 heures de cuisson. Je peux vous assurer que le résultat est absolument épatant. La peau croustille, à condition évidemment de l'avoir préalablement salé. Ça, l'assaisonnement avant la cuisson, c'est important parce que le sel va légèrement assécher la peau et c'est ce qui va ce qui va contribuer à sa croustillance. Mais en tout cas, à 3 heures à 140, je peux vous assurer que cette école donne des résultats tout à fait efficaces.
Nathalie Hélal.
L'idée aussi, c'est la préparation avant de l'enfourner. Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup décoller légèrement la peau du poulet avec les doigts, délicatement, en essayant de ne pas la déchirer, et puis d'introduire dedans du beurre manié, avec ce qu'on appelle du beurre manié, c'est-à-dire un beurre mélangé.
Vous fourrez le poulet avec du beurre.
Je fourre le poulet.
Vous
avec du beurre aux herbes. Ouais.
Comment on dit ?
On le contise, c'est-à-dire qu'on place une petite farce sous la peau.
Exactement, donc un beurre avec des herbes, généralement sauge, persil plat par exemple, ou bien ciboulette, estragon, persil plat toujours. Et puis, donc ça, ce beurre est glissé sous la peau. Et ensuite, à l'intérieur du poulet, réellement dans la cavité, je mets des gousses d'ail et un demi-citron.
Et de l'oignon aussi. Moi, je mets de l'oignon.
Alors, ça donne un goût un peu fort pour moi, donc j'évite, c'est d'autres recettes.
Le citron, je suis d'accord.
Voilà, et ça donne, bio, et là, ça va donner, il va vraiment prendre sa pleine saveur, il va être parfumé par les herbes, il va rôtir à la perfection.
Après, sous la peau, les jours de fête, il n'est pas totalement interdit de glisser quelques lamelles de truffe, non?
Oui, bah, enfin,
quand on a les moyens.
Vous avez les moyens, vous, Laurent Gaze.
Les jours de fête, non, je n'ai pas les moyens, mais je rêve, voilà, je rêve avec vous.
Nous, on n'a pas les moyens autour de la table. Bonjour, Nicole.
Bonjour à toute l'équipe.
Bienvenue, vous êtes Bressane, c'est ça?
Ah, je suis d'origine bressane, mais j'habite actuellement en Haute-Provence. Et c'est vrai que le poulet de Bresse m'est de plus en plus cher. Mmh. Lorsque je remonte en Bresse, je fais, comment dire, une razzia sur les poulets élevés à la ferme, bien sûr. Mmh. Je vais les chercher directement. D'ailleurs, j'ai pas mal d'amateurs maintenant ici en Provence qui me demandent de leur descendre des poulets. Alors moi, pour la préparation, je le préfère tout simplement rôti. Et je suis les conseils de ma tante qui était éleveuse de poulets de Bresse. Je commence par le faire rôtir à feu pas trop fort.
Comme François-Régis Gaudry.
170 degrés. Et au fur et à mesure, je monte un peu le four. Et ce que je fais, bien sûr, c'est que j'enlève la graisse au fur et à mesure. Et j'arrose, je tourne mon poulet, je l'arrose. Et puis voilà, puis ça convient très bien. J'ai oublié de préciser que je mettais quand même quelques petites herbes à l'intérieur, en particulier de l'estragon.
Ah ben là, François-Régis Gaudry, il est aux anges là. Merci beaucoup Nicole de nous avoir appelés. Allez, sur ces bonnes paroles, il est l'heure de retrouver la chronique de notre prof de philosophie préféré, Thibaut de Saint-Maurice.
Oui Ali, parce que j'ai peur de deux ou trois trucs dans une cuisine, comme par exemple que la crème pâtissière soit trop prise ou que la mousse au chocolat à l'inverse ne soit pas assez prise, ou même j'ai peur souvent de rater une béchamel, mais je n'ai pas peur de découper un poulet qui sort du four. Et en fait, même, je dois vous dire, j'aime assez ça. Alors, c'est pas la sensation du couteau dans la main qui me plaît. Voilà. Mais c'est précisément quand on découpe un poulet, on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà. Il y a des articulations à respecter. Alors, on peut un peu choisir l'ordre dans lequel on va détacher certains morceaux, les cuisses, les ailes, les blancs. Mais on n'a pas vraiment le choix sur les morceaux et surtout sur le respect des articulations.
Et l'art de découper un poulet, c'est donc l'art de respecter les articulations du poulet.
Oui, exactement. Et c'est tellement important qu'un bon découpeur de poulet n'a même plus besoin de tablier, tellement ses gestes sont précis et efficaces. Alors savoir respecter les articulations naturelles pour pouvoir découper et séparer les morceaux, eh ben c'est donc ça le secret. Et figurez-vous que c'est aussi un secret de la philosophie. Ah alors bon, c'est pas moi qui le dis, voilà, vous allez voir, c'est Socrate. Dans son dialogue avec le jeune Phèdre, il y a un peu plus de 2300 ans, l'un des secrets, nous dit Socrate, c'est de, je le cite, « pouvoir découper selon l'espèce en respectant les articulations naturelles et en prenant soin de ne déchirer aucune partie comme le ferait un mauvais boucher ». Ben voilà, pour bien raisonner, pour bien argumenter, pour réfuter parfois, encore faut-il savoir analyser une idée, ne pas confondre, ne pas faire des raccourcis. Bref, encore faut-il savoir distinguer les articulations naturelles.
Et on parle d'ailleurs d'un discours ou d'une plaidoirie bien articulée.
Oui, exactement. Le respect des articulations est toujours essentiel pour être compris ou pour faire apparaître une réalité. Quand on n'articule pas, surtout à la radio, eh ben on ne comprend rien.
Ça m'arrive.
Voilà, quand un discours n'est pas bien organisé, on se perd. Et quand on ne respecte pas les articulations du réel, on détruit les morceaux, on fait de la bouillie. Essayez par exemple de découper un poulet rôti en tranches. Le résultat risque d'être compliqué. Tout ce que rappelle Socrate au fond, c'est que le philosophe, ce n'est pas celui qui sait plus de choses, qui est plus cultivé ou qui est le plus éloquent ou le plus charmeur, non. Le philosophe, c'est d'abord un bon boucher. C'est celui qui sait repérer les articulations d'un discours, d'un concept, d'un problème et qui peut analyser tout ça dans l'ordre. Comme quand le poulet sort du four. Voilà, toutes les articulations ne sont pas visibles, mais on observe, on suit les traces, on ne force pas. Et ça vient presque tout seul. À la limite, on ne découpe plus tellement c'est précis, on en vient à détacher les morceaux. Voilà, pour finir, petit conseil pratique. Si vous connaissez donc un élève de terminale et si vous voulez l'aider en ce début d'année avec son cours de philosophie, eh bien apprenez-lui à découper un poulet. Et puis en plus, ça pourra lui servir à répondre à cette question comme par exemple, qui est arrivé le premier, l'œuf ou la poule?
Ah ben ça. Allez, la petite philosophie de la vie quotidienne à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Pourquoi les Français sont-ils toujours aussi accros au poulet? C'est notre menu du jour.
People never recognize me.
on vient d'écouter Highlights, interprété par Charlotte Adigéry.
Ce matin, comme tous les mardis matins, Dominique Bretaudeau est parti pour acheter un poulet fermier.
Grand bien vous fasse.
Je veux un poulet rôti avec tout plein de sauce.
Sur France Inter.
Un jour, vous aussi, vous découvrirez le bonheur de manger avec les doigts un délicieux pilon de poulet, de croquer dedans à pleines dents. Et vous vous direz, qu'ai-je à faire d'un couteau et d'une fourchette, au fond ? Qu'ai-je à faire de toutes ces règles et de tous ces codes qui m'entravent, qui m'empêchent d'être moi-même et de vivre enfin ma vie librement. Libérez votre côté super pilon.
Bernard Boutboul, je rappelle que vous êtes directeur du cabinet Gérard Conseil. On s'intéresse au poulet, à la passion des Français pour le poulet. Le nuggets, les pilons de poulet, ce sont les plafards des fast-foods. McDo, KFC, Burger King. Comment expliquer d'ailleurs la passion des enfants, des jeunes pour tous ces produits que l'on retrouve dans la restauration rapide?
Tout simplement parce qu'ils se mangent avec les doigts et c'est ce qu'on a eu depuis de nombreuses années. On n'a pas eu le poulet rôti dans la restauration et encore moins dans la restauration rapide. Donc les nuggets sont là, mais ils font pas des gros cartons au niveau des ventes. Hein.
Ah bon?
Non, pas du tout. C'est inférieur à 5% des ventes, les nuggets. Les gens viennent pour un burger et des frites, ils viennent pas pour les nuggets. Les nuggets, ouais, c'est très menu enfant, etc.
Mais les enfants adorent ça.
Oui, absolument. Ils adorent ça, encore une fois, parce qu'on les mange avec les mains, il n'y a pas d'os, etc. Mais ce qu'on est en train de voir au-delà de ça, c'est que depuis quelques petites années, il y a trois approches du poulet dans la restauration rapide qui sont en train de se déployer en France et en Europe et d'ailleurs dans le monde. La première approche, c'est le cuisiner sur place. On épluche les pommes de terre le matin, on les fait dans le jus, la rôtissoire qui tourne devant les clients, on découpe comme il veut, etc. C'est par exemple l'excellent concept poulet-poulette qui se trouve dans le quartier Montparnasse, qui a déjà deux points de vente à Paris, tout à fait. On a une deuxième approche qui est un concept qui s'appelle pic-poule, également à Paris, qui lui fait du semi-service à table, c'est-à-dire qu'il est prêt à venir à votre table pour vous découper le morceau selon ce que vous voulez, etc. Et la troisième approche qui arrive de plus en plus en France, c'est, on en a parlé tout à l'heure, c'est ce que font les Portugais. Ils ont à la crapaudine, vous savez, ce que les Portugais appellent les petits poulets, les franguitos, ils les écartent, ils les font tourner sur des barbecues, ils les découpent en morceaux et devant les clients, ils demandent, après les avoir badigeonnés de marinade, s'ils veulent une boîte de 3, une boîte de 6, une boîte de 9, il y a une frite et une salade. C'est simple, c'est super bon et c'est pas cher.
Sur les nuggets, notamment vendus en supermarché, je suis allé dans un supermarché hier et j'ai regardé une boîte vendue par une grande marque. Et alors, vous savez ce qu'il y a dans les nuggets, François-Régis Gaudry?
J'imagine volontiers, pas de gros mots sur l'étiquette.
Ouais, alors, eau, premier ingrédient, eau, viande de poulet d'origine France, 17%, viande de dinde, origine France, 10%, peau de volaille, fibre de blé, gluten de blé, acidifiant, E326, E262, sel, arôme. Wow. Voilà, dans une grande marque, dans un supermarché.
Ouais,
vous achetez pas de toute façon, François.
Non, mais ça me laisse en voix. Mais ça fait des années en l'occurrence que je me rebelle contre ce genre de démarche industrielle. Mais on découvre pas la lune pour le coup.
C'est vrai. Ce qui est incroyable quand on sait tout ce qu'il y a vraiment dans ces nuggets de poulet, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est qu'en fait c'est un professeur en sciences de l'alimentation qui les a inventés en 1963, bien avant qu'une célèbre chaîne de restauration rapide les mette à son menu. Donc au départ, ça ne devait pas être ça. Et puis ça a dérivé. En effet, il y a de la graisse, des vaisseaux sanguins, des nerfs. Enfin, tous les résidus épouvantables des découpes de poulet. Et on sait qu'aujourd'hui, il vaut mieux les faire chez soi, tant qu'à faire, que les consommer en fast-food ou acheter dans les supermarchés.
Alors, quel poulet choisir? Beaucoup, beaucoup de questions. Comment on choisit son poulet? D'abord, quelle est la différence entre le poulet blanc, jaune, noir, Nathalie Hellal?
Effectivement, ça vient surtout aussi de alors, il y a des races de poulets très différentes. Il y a même une race assez extraordinaire qui vient d'Indonésie, qui est un poulet noir. La race s'appelle Ayam Semani. C'est très particulier. Vraiment, tout est noir, chez ce poulet. Même la langue, les ergots, tout est noir. Bon, ça, c'est le poulet un peu de luxe, un peu la curiosité. Et puis, il y a des tas de poulets, en effet, de différentes couleurs. Et puis, il y a aussi l'alimentation qui va colorer.
Cette appellation poulet jaune, poulet blanc.
Quand il est nourri au maïs, eh bien la coloration devient jaune. Ça, c'est une logique. Et puis, il y a des poulets pattes noires, il y a des poulets blancs.
Qui correspondent à des races plus
voilà.
ou moins anciennes.
Il y a plein de croisements aussi. Il y a eu plein de croisements de races.
Comment on choisit son poulet, François-Régis Gaudry?
Moi, je me dirige assez spontanément vers un poulet de ferme, évidemment, bio de préférence. Et j'ai d'autant moins.
Qui coûte cher pour ceux qui nous écoutent, tout le monde n'a pas peut-être les moyens d'acheter des poulets labellisés.
On a d'autant moins de mérite de faire ce choix que la différence entre. La différence de prix au kilo entre un poulet industriel qui a été abattu à croissance rapide, abattu entre 35 et 40 jours, encore une fois élevé dans des endroits extrêmement confinés, souvent soignés aux antibiotiques, et un poulet de ferme qui a gambadé au minimum label rouge, mais qui peut être aussi bio, qui a mangé des vers de terre, une certaine diversité de plantes sauvages, et qui a la cuisse un peu plus ferme, le poulet de ferme, c'est ferme, mais c'est pas dur. Il faut revendiquer l'idée que la chair est de la mâche. Il faut vraiment s'éloigner de ces poulets qui ont des textures de chamallow.
Laurent Guez, directeur du Parisien Weekend.
On a souvent tendance à se méfier de tous les labels ou de les remettre en cause et tout. C'est à mon avis souvent une erreur parce que là. Pour le coup, ce qu'on appelle les signes de qualité, donc le label rouge, c'était il y a longtemps, mais ça a apporté un vrai plus, un vrai progrès. Les autres signes de qualité, ça va jusqu'à l'AOP, genre poulet de Bresse dont on parlait tout à l'heure, mais aussi les poulets bio. Et à chaque fois, la réglementation est extrêmement claire, c'est le nombre de volatiles par mètre carré dans l'élevage, l'âge auquel l'animal, le volatile, est abattu, etc. Donc c'est des choses extrêmement précises et qui apporte à celui qui le consomme un vrai bénéfice. Donc vraiment, il faut y croire à ces signes de qualité.
Vous évoquez le label rouge, c'est effectivement sur la volaille un très bon signe de qualité avec, exactement comme pour le cahier des charges du bio, 80 jours minimum pour l'âge de la bête, ce qui représente quand même déjà un certain temps pour le développement de la bête.
Alors effectivement, ces niveaux de qualité, le bio, tout ça, c'est effectivement très recherché, mais on va tout doucement vers une alimentation à deux vitesses. Il faut faire attention parce que dans certains magasins bio que je ne citerai pas, on est à 30 à 40% plus cher qu'un poulet fermier acheté ailleurs. Donc, est-ce justifié? Mais surtout, ma question, c'est a-t-on des consommateurs qui ont les moyens de payer ce prix-là?
Bonjour Anne.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Avez-vous les moyens d'acheter un poulet labellisé, bio
Les moyens, je me les donne, parce que c'est ça ou rien, finalement. J'achète à peu près un poulet par semaine chez le petit producteur à côté de chez moi. Je vois les poulets qui gambadent. Je sais que ce sont des bêtes qui vivent heureuses. Et je sais que le moment de la mise à mort, ben ma foi, il n'y a pas le stress du transport. Ça se passe parce que ça doit se passer, mais bon, ça se passe avec le moins de stress possible, avec beaucoup plus de respect de l'animal. Et je disais d'ailleurs que tant qu'il n'y aura pas d'abattage sur place pour tous les animaux, je ne mangerai plus d'autre viande que du poulet. J'ai le souci de bien m'alimenter, mais j'ai aussi le souci de respecter la vie dans son ensemble.
Restez avec nous, Anne. Nous accueillons Sébastien Arsac. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Vous êtes porte-parole de l'association L214 qui défend avec vigueur la cause animale. Qu'est-ce que vous répondez à Anne qui est soucieuse du bien-être animal
C'est pas quelque chose d'isolé parce que quand on regarde les études d'opinion, on voit que les Français sont soucieux des conditions d'élevage des animaux. Donc ça c'est un premier point. Donc après chacun l'applique en fonction de son âme et conscience. J'ai envie de dire ça va de refuser de manger des produits animaux jusqu'à choisir des labels, jusqu'à s'en remettre aux autorités et puis continuer à ne rien changer. Mais en tout cas c'est loin. Enfin ce qui est décrit par Anne est loin de représenter la production aujourd'hui en France. Quoi.
Je crois que 80% des poulets produits en France sont issus de l'élevage industriel. Quelles sont les conditions d'abattage des poulets que votre association L214 a pu constater? On a vu évidemment dans beaucoup de médias des images très fortes, parfois traumatisantes.
Un abattoir doux là, qui vient de fermer, on a fait des images, c'était 240 poulets à la minute. Pour les cadences d'abattage, donc c'est ça, ouais, les abattages industriels aujourd'hui des poulets. Mais avant l'abattage, évidemment, c'est l'élevage. Il faut savoir que en 1950, par exemple, pour qu'un poulet atteigne le poids de 1 kg 500, il fallait 120 jours. Aujourd'hui, ils les atteignent en 30 jours. Mmh. Et en fait, ça, c'est la sélection génétique, c'est aussi l'alimentation qui fait qu'aujourd'hui, bah, les poulets qui sont tués aujourd'hui et qui sont consommés en plus grand nombre, hein, comme vous dites, 83% aujourd'hui des poulets en France sont issus de l'élevage intensif.
Sébastien Arsac,
des poulets qui proviennent de ces élevages-là.
Sébastien Arsac, qu'avez-vous envie de dire à ceux qui se soucient de la souffrance animale, vraiment, et qui aiment le poulet et qui continuent à en manger?
Bah, je pense que bah, tout le monde, en gros, hein, se soucie de la souffrance animale et tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne doit pas maltraiter les animaux sans nécessité. Alors, si on veut mettre de l'éthique dans son assiette, évidemment, je rejoins que le label rouge et le bio sont deux labels qui garantissent des meilleures conditions, enfin, au moins un accès à l'extérieur pour les animaux. Il se trouve quand même que c'est des élevages où il y a des milliers d'animaux. C'est pas non plus Walt Disney, hein, c'est-à-dire que si on veut vraiment se soucier des animaux, éviter les transports, l'abattage et puis des conditions dans l'élevage qui sont même en bio et en label rouge pas idyllique, le mieux c'est de s'en passer, en tout cas de réduire au maximum. C'est vraiment le premier conseil, c'est de diminuer. Ouais. Il faut savoir que normalement les poulets s'organisent quand ils en ont l'occasion en groupe d'individus de 20 à 25 poulets. Il y a une hiérarchie, les poules enseignent à leurs petits, ils ont 24 cris différents qui sont contextualisés suivant le sens.
Sébastien Arsac,
sont capables de dénombrer des objets, etc. Donc
Sébastien Arsac, il y a François-Régis Gaudry qui aimerait bien vous répondre, vous poser une question. Oui.
Moi, je soutiens tout à fait votre travail de dénonciation de certaines dérives, de l'élevage industriel, etc. Mais est-ce que le combat de votre association ne masque pas, en fait, un but ou un objectif qui est que tout le monde arrête de manger de la viande, y compris des poulets de ferme élevés dans des conditions extensives, avec le bien-être animal respecté? Ça, je suis pas sûr que vous vous satisfaisiez de ce système-là, ce système fermier. Il vous gêne, il vous déplaît, vous voulez le combattre aussi.
Il y a deux questions. Il y a la question de la souffrance animale et la question d'utiliser les animaux, de tuer les animaux pour notre propre consommation quand c'est pas nécessaire. Moi je vois des vaches ou dans les prés ou des poulets dans les prés, c'est pas le problème. Le problème il est pas là. Mmh. Le problème il est au moment, enfin c'est que les poulets, si vous voulez, l'espérance de vie d'un poulet aujourd'hui c'est 10 ans à peu près. Donc y compris en label rouge ou en bio, comme vous dites, c'est 80 jours, donc c'est absolument ridicule. Donc c'est des enfants en gros, oui. C'est des adolescents, ils sont loin d'être adultes et même d'avoir la maturité sexuelle pour se reproduire.
Nathalie a envie de vous répondre là.
Non, mais enfin, je trouve que c'est, excusez-moi, mais je suis d'accord avec vous sur le débat de la souffrance animale. En effet, personne ne peut s'y opposer, mais je trouve que c'est un petit peu cette comparaison avec l'homme. Après, on va arriver bientôt à ces comparaisons de camps de concentration versus souffrance animale. Je suis vraiment très rétive à ce genre de discours, excusez-moi.
Merci beaucoup, hein, Sébastien Arsac de l'association L214 d'être intervenu. Ces images, Bernard Boutboul, d'abattoirs de poulets, ça a un impact sur la consommation de poulets?
Les consommateurs les voient, c'est pas qu'ils n'en tiennent pas compte, mais ça n'a pas d'impact. Mmh. Ça n'a pas d'impact parce que d'abord ils veulent continuer à manger de la protéine animale. Et effectivement, il y a une frange de la population qui décide d'arrêter, mais elle est infime. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut pas être non plus extrémiste. Et je suis d'accord, il faut pas éviter de manger du poulet fermier bio.
Allez, où avez-vous mangé le meilleur poulet au monde, François-Régis Gaudry?
Ouf, meilleur poulet au monde.
Ou moi à Paris, allez à Paris. Au
chez moi, allez, je fais attention. Pardon, je vous inviterai tous. Non, j'ai constaté en tout cas un retour du poulet rôti sur les tables parisiennes. Et l'étape de région, ça c'est incontestable, peut-être avec cette idée que on renoue avec cette cuisine un peu nostalgique, des Trente Glorieuses, etc. Alors qu'avant, le chef qui savait cuisiner avec sa grande toque sur la tête, le poulet rôti c'était trop simple pour lui.
Une adresse.
Repère de Cartouche, 11e arrondissement.
Pour les Parisiens.
Rodolphe Paquin, un très bon chef qui a décidé de remettre au goût du jour le dimanche dans un brunch le poulet rôti, cuit à la rôtissoire, très belle origine de poulet dans le perche, avec un accompagnement de frites maison, n'en jetez plus, c'est superbe.
Nathalie Elal.
C'était plutôt en Belgique parce que j'ai eu la chance de goûter ce qu'on appelle le coucou de Malines, qui est une race de poulet absolument extraordinaire.
Bernard Boutboul.
Ah, pour moi, indiscutablement, c'est à Montparnasse, poulet-poulette.
Oui, c'est vrai, c'est bien.
Laurent Guez.
Moi, je l'ai déjà dit, Alice, pour moi, c'est le coq Rico, là, sur la rue de Montmartre à Paris, qui est pour moi vraiment
Que des adresses parisiennes ou quasi, sauf en Belgique. C'est où, rappelez-nous?
Écoutez, je ne sais plus,
En tout cas, c'était bon. Merci, Bernard Boutboul, d'être venu. Nathalie Elal, on peut toujours se procurer en librairie votre livre. Même les légumes ont un sexe. Merci à tous d'être venus. Vous pouvez retrouver toute la bibliographie sur le site de Grand Bien Vous Fasse. Belle journée à l'écoute de France Inter.
s'habitue à tout, aux colonnes de Buren, à Duchamp, sa fontaine, aux coups de boule de Zizou, aux voix dans l'autotune, à nos villes qu'on enfume, à nos vilaines tout. On s'habitue à tout, voir vieillir ses parents, voir élus des tyrans, aux voix qui amadouent, à se méfier de ce qu'on mange, à se méfier des gueules d'ange, à plus se méfier du tout. On s'habitue à tout, mais ne plus dire je t'aime, s'en remettons quand même, ce baston de mots doux. On s'habitue à tout, mais pour l'amour qui part, les amoureux hagards s'en remettent au vaudou. S'en remettent au vaudou. On s'habitue à tout, à notre Eldorado, aux poumons remplis d'eau, aux urnes remplies de boue, au 21 avril, au réveil difficile et à celui des loups. On s'habitue à tout, au bruit de pas du dessus, à vivre un peu déçu, à vivre de peu de sous, à faire un peu l'autruche sans remettre les bûches qui font battre le pouls. On s'habitue, c'est tout, à faire sa petite danse javanaise de l'absence, et j'en bave pas vous, mais on s'habitue à tout. On s'habitue à tout, mais ne plus dire je t'aime, s'en remettons quand même ce baston de mots doux. On s'habitue à tout, pour l'amour qui part, les amoureux hagards s'en remettent au vaudou. S'en remettent au vaudou. S'en remettent au vaudou.
Renan Luce, on s'habitue à tout.